Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer, mais que j'aurai plaisir à saluer après. On est heureux avec Priscille d'être parmi vous ce matin. Et merci à l'équipe de Louange pour ce moment. Et vous le verrez, c'était inspiré, je pense. Et c'est ce que je vais vous partager ce matin. Et dans la continuité de ce que nous avons pu chanter et célébrer. Mais avant de commencer, je vous propose de prier, puis de remettre ce moment d'écoute entre les mains de Dieu et sous la conduite de l'Esprit. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour ta parole qui cherche à nous faire grandir, à nous transformer et à nous rendre toujours plus semblables à toi. Que ton esprit, encore ce matin, puisse agir en nous, nous transformer, nous libérer et faire de nous des témoins. Amen. Alors, j'ai une première question qui est de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont adeptes des vêtements blancs? Une, deux, oui. Même si vous n'êtes pas en blanc ce matin, vous aimez bien les vêtements blancs. Alors, nous, avec Priscille, alors même si on trouve ça très beau, on n'est pas forcément fan parce qu'on ne sait pas bien les gérer. Ils ont tendance à devenir jaunes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai la peau qui marque beaucoup, ou est-ce que c'est une histoire de lessive, de produits à ajouter, de machines. J'en sais rien, mais le blanc, pour nous, ce n'est pas le top. Par contre, pour les lessivistes, c'est un marché porteur. Je pense que vous avez tous en tête les pubs qui vendent des lessives qui lavent encore plus blanc que... Et voilà. Et oui, et ben, ils utilisent une expression biblique tronquée, on y reviendra après. Mais voilà, c'est un slogan qui revient et qu'on a en tête, hein, blanc, plus blanc que blanc. Il y a même Coluche qui a fait un sketch là-dessus, dans les années 80. Il demandait quelle couleur pouvait correspondre à plus blanc que blanc. C'est une vraie question. Qu'est-ce qui peut être plus blanc que blanc? Eh bien, il n'a pas réussi à répondre. Alors ce matin, malgré tout, on va essayer d'y répondre avec le verset qui est... Le verset biblique, c'est « blanc plus blanc que neige ». Et oui, c'est pas « blanc plus blanc que blanc », mais c'est « blanc plus blanc que neige ». Alors, c'est presque pareil, mais ce n'est pas pareil. On est d'accord, dans la symbolique universelle, le blanc représente la pureté, la sainteté, et cette notion de sainteté, de pureté, se retrouve dans toute la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et s'il y a bien quelqu'un qui cherchait à être pur dans la Bible, ce sont bien les pharisiens, les maîtres de la loi. Je vous propose donc de lire ce que disait Jésus sur ces pharisiens. Donc c'est dans Matthieu, et c'est Matthieu 23, versets 24 à 28. « Guides aveugles que vous êtes !» Vous filtrez vos boissons pour éliminer le moindre moucheron, mais vous avalez le chameau tout entier. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette. Alors l'extérieur sera pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux, crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air d'être juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Alors j'ai toujours été épaté par l'attitude de Jésus envers les pharisiens et les chefs de la loi. Il est sévère avec eux, hein. Il ne mâche pas ses mots. Alors, quels sont les reproches qui sont faits à ces pharisiens, à ces chefs de la loi? Alors, à chaque début de verset, on trouve deux mots qui sont répétés en alternance. C'est aveugle et hypocrite. Et à chaque fois, Jésus pointe du doigt la contradiction entre le paraître et l'être. Le paraître, tout ce que l'on veut montrer. Paraître blanc, paraître pur, paraître saint. Et l'être, tout ce qui se passe réellement à l'intérieur. Alors c'est une véritable question, hein, c'est tout le fil conducteur du message. Quel est notre regard, nous, sur les pharisiens? Évidemment, nous sommes sévères avec eux. Ils n'ont vraiment rien compris, ces pharisiens, avec leurs règles, leurs habitudes. Mais on serait bien prétentieux de croire qu'ils n'aspiraient pas à une certaine pureté. Vous en convenez. On est d'accord que les pharisiens, ils voulaient aussi être purs, être saints aux yeux de Dieu. Alors, avant de juger trop rapidement, il est toujours intéressant de prendre un peu de recul et de se demander, mais les pharisiens et les maîtres de la loi, s'ils agissaient comme ça, sur quoi se basaient-ils? Si je vous demande dans l'Ancien Testament, combien y a-t-il de commandements? 10, on aurait dit 10 commandements. Eh ben non, il y en a 613 et il y en a 248 qui disent fais ceci et 365 qui disent ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Incroyable quand même. Et vous imaginez ces pharisiens, qu'est-ce qu'ils étaient? Les pharisiens, ils étaient responsables de faire appliquer ce qu'il y avait dans la Bible. Ils étaient responsables de faire appliquer ces 613 commandements. Et puis ils s'étaient dit, ben, on n'est pas sûr que si on applique ça, on soit vraiment tout bien, tout bien, tout bien. Eh ben, on va en rajouter. Donc, il y a le Talmud qui est venu encore expliquer tout ça et qui a rajouté encore des règles pour illustrer le texte. Parce que, il faut pas oublier qu'à l'époque, si on avait fait quelque chose qui n'était pas bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Un sacrifice. Alors, vous imaginez tous les jours aller au temple, faire un sacrifice, et on n'était jamais réellement saint. Et alors quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est quand même incroyable de voir qu'il y avait autant de commandements. Et puis je me suis dit, heureusement que je ne vis pas à cette époque-là. J'aurais toujours l'impression de faire quelque chose de travers. Et est-ce que je ne tomberais pas un peu dans le même mode de fonctionnement? Et qu'on le veuille ou non, tous ces commandements, tout ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ça fait partie de la Bible. On ne peut pas dire, bon, c'est une partie de la Bible qu'on ne prend plus en compte. Ça en fait partie. Et ces pharisiens, ils ont vécu avec ce qu'on leur transmettait de génération en génération. Et on comprend un peu mieux le comportement des pharisiens, des maîtres de la loi, qui avait cette mission de faire respecter cette loi. Et la logique. Alors normalement, il n'y avait que les vêtements blancs qui apparaissaient. Quelle est la logique de tout ça, puisque ça, on les trouve dans la Bible? Ben, la logique, c'est, imaginez, vous êtes habillé comme ça, beau costume blanc pour messieurs, belle robe blanche pour madame. Alors là, c'est une robe de mariée, mais en général, c'est plutôt pour ces occasions-là. Mais vous imaginez, quand vous êtes habillé comme ça, vous n'osez rien faire. C'est-à-dire que les pattes bolo, vous dites, oula, je vais prendre les pattes sans la bolo. Je m'assieds où? Alors, déjà pas dehors, hein, les bancs publics, vous oubliez, les murets, vous oubliez, les chaises à l'intérieur, vous prenez le mouchoir, vous faites bien le ménage partout avant. Quand vous allez chez quelqu'un, vous dites, je vais rester debout, c'est bon, ça ira, merci. Ouais. Voilà, on est dans une logique où on a peur de tout. De peur qu'on se tâche. Parce qu'après, forcément, quand il y a une tache, il faut laver. Et sur le blanc, pas toujours simple hein, de laver du blanc pour qu'il reste blanc comme quand il était neuf. Hein, parce qu'au bout de plusieurs lavages, hein, au bout d'un moment, ça devient un peu jaune, ça devient un peu. La tache qui était censée partir, on la devine toujours un peu. Voilà, ça reste. Enfin, c'est difficile à vivre de vouloir rester pur. Et c'est un peu la première idée de tout ça, c'est que, et de l'Ancien Testament, il est impossible d'être pur par ses propres moyens. C'est-à-dire qu'on peut appliquer toutes les règles qu'on veut, rester blanc, 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 plus blanc que blanc, pas possible. Par ses propres moyens, impossible. Et puis, la deuxième réflexion, on le voit bien avec l'histoire de la Bible, que bon, la logique de Dieu, hein, malgré tout, dans pourquoi il a donné tous ses commandements, c'est que il voulait que son peuple, qu'il avait choisi, reste pur aussi. Et il leur a donné ça avec cette conclusion qui dit, par vous-même, vous pourrez pas. Et on voit toute l'histoire du peuple d'Israël qui fait que tous les hauts et les bas qui conduisent entre autres aux déportations, qui conduisent entre autres à des éloignements de Dieu. Voilà. Et pour nous, on peut jeter la pierre aux pharisiens en leur disant, maître de la loi. En leur disant, vous n'avez rien compris, vous vous mettez plein de règles et vous imposez plein de choses, les mêmes remarques que Jésus. Mais je me dis que parfois, on ne fait pas mieux. On pique ici et là des versets que nous érigeons en dogmes et nous les appliquons et nous voudrions que les autres les appliquent. Et s'ils ne les appliquent pas, ah ben. Ils sont pas chrétiens, ils sont pas saints, ils sont pas purs, et nous les pointons du doigt en considérant des mauvais chrétiens. Alors, on en a tous des règles. Alors, moi personnellement, je ne bois pas d'alcool. Ça fait 8 ans. Inspiration divine pendant une nuit, mais. Est-ce que je dois en faire une règle pour vous tous en disant, moi, l'esprit m'a parlé, je ne boirai pas d'alcool? Est-ce que je dois vous interdire de ne pas en boire? Ça serait bien. Mais, alors, je vous invite à ne pas en boire. Par contre, dans la Bible, on en trouve. On voit même que c'est le fruit du repas de Pâques. Mais voilà. Et ce serait malvenu pour moi de vous l'imposer. Parce que c'est mon inspiration, ce que j'ai vécu avec Dieu. Et en aucun cas, ce que Dieu vous demande peut-être chacun individuellement, personnellement. Alors, nous sommes tous de bons chrétiens, comme tous ceux que nous croisons le dimanche matin, mais nous sommes plus ou moins virulents à paraître, faire croire que nous sommes purs. Et à juger les autres qui ne le sont pas, par rapport à notre règle, comme les pharisiens, et de dire aussi des fois comme eux, moi je suis pur, et regarde ce que je fais en comparaison des autres. Mais au final, la remarque que Jésus faisait aux pharisiens, elle est valable aussi pour nous. Que se passe-t-il à l'intérieur? Même temps, qui va crier sur les toits qu'il est dépendant, qu'il a une maîtresse ou un amant, qu'il vole? Personne. Même dans la société, il n'y a personne qui se vante de faire ces choses-là, finalement. Donc encore moins chez les chrétiens, qui sont exempts évidemment de tous ces problèmes-là. Et je pense que les remarques de Jésus qu'on a lues au départ, elles s'adressent aussi à nous. Parce que il est impossible d'être pur par ses propres moyens. Et que souvent, on essaye de faire de travailler le paraître plus que l'être. Alors heureusement, Dieu ne s'est pas arrêté juste à nous laisser des commandements, parce que sinon on serait au même niveau que les pharisiens. Et on trouve, alors j'ai fait le parallèle avec la lessive, les traces d'une nouvelle technologie dans l'Ancien Testament, alors qui est un peu particulière, puisque comme nous le venons de le voir, on le voit dans Genèse. Alors à gauche, c'est une histoire, c'est des pieds qui écrase du raisin pour faire le jus de raisin. Et puis au centre, on voit un Israélite en train de mettre du sang sur les linteaux avec une branche d'hysope. Et à droite, une chemise blanche avec une tache rouge. Et donc on trouve dès la Genèse un verset qui parle de... Donc c'est Genèse 49, verset 11. Il lave dans le vin son vêtement, dans le jus des raisins, il nettoie son manteau. Pour ceux qui font un peu de lessive, vous êtes sûr qu'à la fin, votre manteau, il est pas blanc. Il est violet, voilà, plutôt... si vous voulez décolorer le vêtement blanc, c'est la bonne méthode. Mais bon, voilà, j'ai dit que c'était les traces d'une nouvelle technologie, hein, donc il faut suivre. Et ensuite, on trouve dans Psaume 51, verset 9, donc c'est le psaume de David. « Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. » Et enfin, Ésaïe 1, verset 18. « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme de la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Donc, par rapport au premier verset, on trouve ce verset-là dans la bénédiction que Jacob fait à son fils Judas. Judas, ancêtre de Jésus, on y reviendra un peu après. C'est introduction, les traces d'une nouvelle technologie, donc qu'on verra dans le Nouveau Testament. Et puis... Ensuite, les deux autres passages, on retrouve notre fameux slogan de lessive, plus blanc que, alors pas plus blanc que blanc, pour le coup, mais plus blanc que neige. Et on voit que dans les deux cas, dans ce que l'Ancien Testament préfigure, annonce, c'est que le résultat obtenu dans les deux cas est impeccable. On retrouve le plus blanc que neige. On verra en conclusion ce qu'est le plus blanc que neige. Et il y a une notion intéressante qui intervient, qui est celle du péché, notamment dans les deux derniers. Et que l'autre point important, c'est que dans les deux cas, on ne voit pas d'action particulière de l'intéressé, mais un appel à une intervention extérieure. Hein, puisque... purifie-moi du péché, David appelle, en l'occurrence Dieu, à le purifier du péché, à le laver de ses fautes, et alors il sera blanc, plus blanc que neige. Et dans la même manière, dans Ésaïe, Ésaïe ne dit pas qu'il faut faire ceci ou cela pour avoir, pour que ça soit plus blanc que la neige, non. Si vous péchez, sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront plus blancs que blancs. Et voilà, une nouvelle fois, une intervention extérieure. Et dans les trois cas, c'est le paradoxe incompréhensible d'un point de vue humain. On a d'un côté cette blancheur, la pureté retrouvée à son paroxysme, hein, finalement, plus blanc que neige. C'est mieux qu'avant, finalement. Avec le contraste tachant du vin, du jus de raisin ou du péché. Et on sait, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà réussi, mais les taches de vin sur du blanc, je pense que c'est, mis à part faire bouillir peut-être, mais bon, faire bouillir un vêtement, c'est après vous le donnez pour les poupées pour vos petits-enfants. Hein, voilà. Ouais. Mais il faut faire tout de suite, hein. Et voilà, et il y a toujours le risque que ça soit, qu'il y ait une tache et que ça reste pas. Et alors, si on continue, si on finit un petit peu tout ce qui est symbolique, l'hysope, C'était ce qui était utilisé dans l'Ancien Testament pour purifier les vêtements, pour purifier les habitations quand justement il y avait quelque chose d'impur. Et c'est ce qui avait été utilisé aussi pour mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes en Égypte lors de la Pâque. Alors, on a parlé de cette nouvelle, des prémices d'une nouvelle technologie, on y vient et on le retrouve dans 1 Jean 1, versets 7 et 8, et puis dans Apocalypse. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Et enfin, Apocalypse 7, verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse, ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Alors, je ne vous apprends rien avec ces quelques versets du Nouveau Testament qui clarifie les versets que nous avons vus précédemment, qui étaient issus de l'Ancien Testament. Cette solution miracle, tout aussi incompréhensible d'un point de vue humain, est bien le sang d'un seul versé pour tous. Mais pas le sang de n'importe qui, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie à notre place, pour que nous ne subissions pas le salaire de nos fautes, la mort. Et par son sang, alors on le voit dans Apocalypse, le sang de l'agneau, Jésus, toutes nos fautes, tous nos péchés sont effacés. Et ainsi nettoyés, purifiés par le sang de l'agneau, de Jésus, nous pouvons nous présenter purs devant Dieu, qui est trois fois saint. Plus que saint, hein. Saint fois saint fois saint. Mais nous pouvons nous présenter saints devant lui. Alors, nous ne méritons ni pour ce que nous sommes, ni pour qui nous sommes, ni pour ce que nous avons fait, mais simplement pour une raison unique, c'est parce que Jésus a pris nos fautes à notre place. Et ce, à chaque fois que nous péchons et que nous avons une tache, le sang de Jésus nous nettoie et nous rend plus blancs que neige pour pouvoir nous présenter à nouveau devant Dieu. Alors, en conclusion, deux technologies, il faut choisir. Alors, le verset, je rappelle le verset que Jésus. La remarque qu'avait fait Jésus aux pharisiens, pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Donc nous avons d'un côté un moyen d'être, ou en tout cas de paraître, d'être presque blanc, qui est de faire ou de ne pas faire, de s'imposer des règles, d'imposer aussi aux autres, hein, de juger ceux qui font, ceux qui ne font pas, comme nous on décide de faire, hein, finalement. Mais il n'y a rien de changé à l'intérieur, il n'y a pas de transformation. Et c'est le risque de l'isolement, hein. Si on revient au parallèle du vêtement blanc, où on n'ose s'asseoir nulle part, on n'ose rien faire. Alors surtout pas jouer avec des animaux, jouer avec des enfants. Surtout n'être en contact avec personne. Et c'est l'isolement, c'est le paraître. Comme une statue qui serait toute bien blanche, qu'on voit de loin, ben, en tout cas qu'on croit. On croit être vu, mais au final, j'allais dire, on est tout seul. Alors que dans l'autre cas, quand il y a une intervention divine, quand le sang de Jésus nous transforme, on ne touche pas le paraître, on touche l'être. Et c'est la purification à l'intérieur, c'est la transformation à l'intérieur, et ça se voit parce qu'on est transfiguré à l'extérieur. C'est un résultat visible. Et là, le blanc, il n'est pas juste paraître blanc, il est plus blanc que neige. Donc nous devons choisir entre ces deux solutions-là, entre le paraître et l'être. Et je vous avais dit que je vous parlerais du blanc plus blanc que neige. Eh bien, j'ai enfin compris ce que c'était que cette couleur, finalement. C'est que, alors, on habite dans une région où on avait régulièrement de la neige, ou en tout cas, on peut en trouver assez facilement. On en a tous vu. Et je pense qu'on s'est tous promenés un jour où il avait neigé et qu'il y a du soleil. Alors, moi, je suis un peu sensible des yeux, en tout cas au niveau luminosité. Eh bien, si vous essayez de regarder de la neige avec le soleil, c'est presque comme si vous essayiez de voir le soleil en direct. Eh bien, le plus blanc que neige, ben c'est un peu ça, finalement. C'est que la pluie qui s'est laissée transformer, hein, qui est en neige, par différents phénomènes, qui crée des flocons, qui s'amasse, qui crée un manteau neigeux, qui devient blanche. Eh bien, quand le soleil vient taper sur, rayonner sur cette neige, elle devient éblouissante, resplendissante. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Moïse, quand il passait du temps dans la présence de Dieu, il était obligé de mettre un voile pour ne pas éblouir ceux avec qui il était. Eh bien, c'est exactement pareil. Si on passe du temps avec Dieu, mais pas à s'appliquer, à se construire des règles, à des faire ceci ou des faire cela, mais passer du temps pour que Dieu il nous transforme à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Les règles, elles viendront naturellement. La dépendance, pour dire, il ne faut pas être dépendant. Mais vous n'aurez, si Dieu nous transforme, alors je dis vous, mais moi en premier, si Dieu habite en moi, s'il me transforme, il y a plein de choses où c'est pas la règle humaine que je me dis faut pas. Non, c'est que naturellement il y aura plus besoin, parce que ça viendra de l'intérieur et ça sera pas quelque chose de l'extérieur qui vient de moi. Et cette transformation extérieure, eh ben elle va se voir et les personnes autour de nous vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent. Et là où on avait peur avec l'ancienne règle d'être en contact avec les autres, de peur qu'ils nous touchent, eh ben ce côté resplendissant, une vie rayonnante, transformante, eh ben c'est cette lumière qui va transformer les autres. C'est pas nous, c'est pas parce qu'on fait, c'est que c'est la lumière de Dieu qui se reflète sur nous et qui touche les autres. Et ces rayons lumineux, eh ben, ils transforment ceux qui nous entourent. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc, vivons cette relation purifiante de Dieu, sans la crainte de l'autre, mais avec la conviction que la présence de Dieu dans notre vie peut transformer d'autres vies. Et alors, je pense que ce chant-là, on le connaît tous. Je vous propose qu'on puisse le chanter.
Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Si le sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus.
Je pense que maintenant on peut célébrer la victoire du sang de Jésus sur la mort par le repas de la scène.